Bonjour Tiffaine, très bon après-midi à vous. De notre côté, on termine avec Chantal Thomas aujourd'hui notre semaine dédiée à Giacomo Casanova.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Giacomo Casanova est né en 1725 dans la Bohême de Venise à une époque où cette ville de 35 000 habitants comptait pas moins de 13 000 domestiques, 850 perruquiers, 200 cafés, 7 théâtres. De quoi tout oublier dans un univers coloré de costumes presque en dehors de la réalité. Peut-être cette naissance l'a-t-elle conditionné à chercher une vie de plaisir et de littérature, une vie aussi de voyage et d'aventure, avec notamment l'épisode de son emprisonnement et de son évasion, comme nous l'a raconté lundi dernier Maxime Rovert au cours d'une émission à retrouver en podcast. Son œuvre, c'est donc lui-même, mais couché sur le papier. Mais c'est bien plus que cela aussi, car si Casanova était un libertin, nous le connaissons seulement parce qu'il a écrit sa vie avec constance et détermination. Il est donc d'abord un écrivain, et c'est justement de l'homme de lettres dont nous a parlé Jean-Christophe Higalens au cours de l'émission de mardi. Enfin, hier, nous sommes revenus sur l'aventurier et l'entrepreneur qu'était également Casanova, lui qui s'est toujours intéressé à l'économie de son époque et qui ne dédaignait pas quelques filouteries pour s'enrichir à l'occasion. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, pour évoquer cette jolie jeune femme, la charpillon qui a brisé le cœur de Casanova, mais également pour définir le casanovisme et raconter les liens du Vénitien avec la capitale de la France, nous sommes en compagnie de Chantal Thomas, romancière et essayiste. Elle vient de publier aux éditions du Seuil le récit East Village Blues. Et concernant Casanova, on lui doit plusieurs ouvrages, comme la préface au livre Mon apprentissage à Paris de Casanova, c'est chez Rivage Poche, ou encore certains chapitres du livre Un air de liberté chez Payot, mais plus encore son essai de référence Casanova, un voyage libertin, disponible aujourd'hui en folio après avoir paru chez De Noël en 1985. Et puis elle a aussi écrit le scénario du film Dernier amour de Benoît Jacquot, sorti il y a quelques semaines, dont on écoute pour commencer un extrait de la bande-annonce.
C'est votre premier séjour à Londres,
monsieur Casanova.
Premier séjour.
Vous m'avez dit que tu étais à Paris.
À Paris, à Genève, à Vienne.
Les femmes.
Les femmes, oui. J'ai toujours été l'ami de toutes. Sauf une. Vous la connaissez donc? Elle est très connue.
Venez vous asseoir à côté de moi. Vous êtes raide dans votre fauteuil. Je ne suis pas fréquentable. Pourquoi faites-vous comme si je l'étais?
Moi non plus, je ne suis pas fréquentable. Qu'y a-t-il de si infréquentable chez vous?
Vous le savez, à moi, on ne fait pas la cour.
M'autoriseriez-vous à vous faire la cour?
Vous seriez capable de vous comporter en fiancé?
Et donc de la bande-annonce de Dernier amour de Benoît Jacquot. Bonjour Chantal Thomas.
Bonjour.
Vous êtes donc co-scénariste de ce film qui se concentre sur l'épisode dit de La Charpillon, qui est en quelque sorte l'histoire de la mise à mort par cette femme de Casanova. Casanova l'a connue à Londres dans les années 1763-1764 et il a eu pour elle une passion véritablement suicidaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet épisode où, au fond, pour la première fois, Casanova va se heurter au refus d'une femme?
C'est-à-dire, il s'était déjà heurté au refus de femme, mais à chaque fois, c'était lié à une classe, parce que c'était des femmes qui appartenaient à l'aristocratie ou qui étaient dans une position socialement dominante. Et donc ça, il le prenait un peu comme une sorte, c'est les hasards de l'existence.
C'est la fatalité.
Avec Marianne Charpillon, de Charpillon, comme le souligne le libertin qu'on vient d'entendre en dialogue avec Casanova, il rencontre une très jeune fille qui est prostituée, qui est connue de tout le monde de plaisir de Londres, et il voit aucune raison et qu'elle lui refuse.
C'est totalement incompréhensible.
Il va s'exacerber chez lui la volonté de payer pour l'avoir, et en même temps, il va se trouver en face d'une sorte de double bind dans lequel elle emprisonne, où elle lui dit « Vous ne m'aurez jamais par de l'argent, il faut que vous me prouviez votre amour. » Et dès qu'il fait quelque chose dans le genre la couvrir de cadeaux, jouer en effet le fiancé parfait, etc., elle continue de se refuser parce que ce n'est pas des preuves suffisantes. Mais ce qui est très beau dans cette histoire, je trouve, est très très déchirant, et plus on a travaillé le scénario avec Jérôme Beaujour, et c'est dans le film, je crois, de Benoît Jacquot, c'est qu'au fond, elle est la partenaire idéale pour lui. Elle aurait été la partenaire idéale, et de même, lui pour elle. C'est-à-dire, il est à la fois un homme de plaisir et quelqu'un qui s'est enrichi par hasard et qui, au fond, n'a rien. Et elle est aussi, elle est totalement démunie, elle n'a que son charme. Et tous les deux ont une sorte de célébrité dans leur force de séduction et de subjugation, si je puis dire. Et plus profondément que ça, et c'est quand même le ressort très mystérieux et opaque de ce récit, de cette histoire, de cet épisode, Casanova a déjà rencontré la Charpillon. Et quand il la voit, il croit la voir pour la première fois à Londres, elle le reconnaît. Puisque à Paris, quelques années auparavant, alors que lui est totalement démuni, qu'il vient d'échapper au plomb, il n'a rien, il rencontre dans un magasin près du Palais Royal cette petite fille accompagnée de sa mère, et elle veut absolument des boucles de souliers qui étincellent à ses yeux, et elle n'a rien, la mère ne veut pas donner l'argent ou ne l'a pas, et c'est Casanova qui les lui offre. Et il y a comme cette première rencontre qui, pour la petite fille, lui ouvre l'infini de la chance.
Et quand il se revoit plus tard, elle a 17 ans, mais lui a oublié.
Voilà, lui l'a oublié, mais quand elle lui dit, évidemment, ça revient. Et ça, c'est une scène dans le film que je trouve très belle, où elle soulève un peu sa robe, elle lui montre cette boucle, et elle lui dit, ça ne vous rappelle rien.
Donc la Charpillon, c'est le double féminin de Casanova ?
C'est quelqu'un qui lui correspondait. Et peut-être à cause de ça, elle a une rage absolue à dire non. Alors qu'elle dit oui à tout le monde. Et Casanova a cette phrase, quand il écrira « Histoire de ma vie », il dit « C'est de ce jour que j'ai commencé de mourir.
» Alors elle lui ressemble tellement, elle est tellement son double, que c'est comme ça qu'ils vont se re-rencontrer aussi, puisqu'elle répond à une annonce que Casanova a déposée, une annonce pour trouver une colocatrice. Et au fond, par défi, elle va répondre à cette annonce.
Elle joue à répondre à cette annonce. Mais oui.
Il faut redire l'annonce parce que quand même, sinon, oui, on a du mal à comprendre.
Puis il faut dire que c'est quand même à cette époque assez rare, cette annonce.
Alors je la lis. Second ou troisième à louer à bon marché, en garni à une jeune demoiselle seule et libre qui parle anglais et français et qui ne reçoit aucune visite, ni de jour, ni de nuit.
Et cette annonce va faire tout le tour de Londres et je ne sais pas si c'était une chose très habile de la part de Casanova.
Donc elle décide de répondre à cette annonce et puis elle lui dira qu'elle avait besoin de rire et envie de punir l'audacieux auteur d'un écriteau pareil. C'est en cela qu'elle est elle-même
l'envie de rire, c'est
une
ça.
Casanova.
Il y a une envie de rire. Il y a une envie de rire chez la Charpillon. Et moi, je me suis renseignée, j'ai lu justement pour ce scénario des documents sur elle. Et il y a quelque chose de tragique aussi. Elle est une petite fille vendue très jeune. Et des années plus tard, elle deviendra la maîtresse d'un très riche libertin, et elle a cette phrase où elle a une phrase de haine et de ressentiment contre sa mère, vraiment très très profonde. Je trouve que c'est un personnage magnifique.
Donc il y a un refus de l'amour partagé de la part de la Charpillon, puisque vous dites que finalement ils auraient pu tous les deux s'aimer, et ça aurait pu être finalement la fin de l'histoire pour l'un comme pour l'autre.
Mais je pense que la Charpillon, d'abord elle est manipulée par sa mère, qui est une mère maquerelle, de bonne société, mais une mère maquerelle. Et ensuite, elle devine, elle connaît Casanova à l'avance, et elle sait que le truc de Casanova, c'est pas seulement pas de séduire en passant, mais à chaque fois de tomber amoureux. Et donc, j'imagine qu'une part d'elle se doute, peut-être elle a tort, mais certainement pas, qu'une fois qu'elle aura cédé, ils vont avoir une phase d'amour flamboyante et Casanova partira.
Casanova va chercher à se venger, mais de façon non violente, hein, à la Casanova, comme on l'entend dans cet extrait d'Histoire de ma vie, lu par Jacques Cérès.
Un peu de jour de là, allant un matin promener mon oisiveté par la ville, je passais par un endroit appelé le marché des perroquets. Comme je m'avisais à regarder ces intéressants animaux, j'en vis un, tout jeune, dans une belle cage, et je demandai quelle langue il parlait. On me dit qu'étant fort jeune, il n'en parlait aucune. Je l'achetai pour 10 guinées. Voulant lui apprendre quelque chose de saillant, je le fis placer près de mon lit, et je lui répétai 100 fois par jour, « La Charpillon est plus putain que sa mère !» Je n'avais assurément aucun autre but en faisant cela que de m'amuser dans mon intérieur, et en 15 jours, le petit animal répétait cette phrase avec la plus burlesque exactitude en l'accompagnant chaque fois d'un éclat de rire, ce que je n'avais pas cherché à lui apprendre, mais ce qui me faisait rire moi-même. Goudard, l'ayant un jour entendu avec ravissement, me dit que si j'envoyais ce petit animal à la bourse, je pourrais certainement le vendre 50 guinées. Saisissant cette idée comme une vengeance contre l'infâme créature qui m'avait si maltraité et me mettant à l'abri de la loi qui sur cet article est fort acerbe, je changeai de ce soin Jarbe, car comme il était indien, l'animal était une marchandise de sang cru. Pendant ces 2 ou 3 premiers jours, mon perroquet, parlant français, n'attira pas un grand auditoire. Mais dès que quelqu'un de ceux qui connaissaient l'héroïne eut fait attention à l'éloge que l'indiscret volatile en faisait, son cercle se grossit et on commença à le marchander. 50 guinées paraissait un peu trop, et mon nègre désirait que je le vendisse à moins. Je ne voulus pas y consentir car j'étais devenu amoureux de mon vengeur. Au bout de 7 ou 8 jours, Goudard vint me désopiler la rate en m'apprenant l'effet que mon perroquet avait produit dans la famille de la Charpillon. Celui qu'il vendait étant mon nègre, on ne pouvait douter que l'oiseau ne fût à moi et que je n'eusse été son maître de langue. Il me dit que la Charpillon trouvait la vengeance très spirituelle, mais que la mère et les tantes en étaient furieuses.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors dans cet extrait d'Histoire de ma vie, Casanova finalement semble rire de l'aventure avec la Charpillon, mais en effet, en réalité, il a véritablement souffert. Jusqu'à quel point a-t-il réellement pensé, selon vous Chantal Thomas, à se tuer, à se donner la mort?
J'ai l'impression qu'il était... Je pense qu'il était résolu. Et d'ailleurs... Plus tard, il va écrire un texte sur le suicide. Donc, le suicide fait partie de ces... C'est quelque chose qui... Pas qui l'obsède, mais en tous les cas, qui est une éventualité pour lui.
C'est son discours sur le suicide.
C'est aussi une attitude de joueur. Il est profondément joueur. Et s'il perd, il perd complètement. Et puis, quand même, il garde toujours l'issue de se reprendre. C'est le perroquet. Mais ce qui est très joli dans cet épisode, d'abord c'est l'idée du perroquet, l'idée d'une phrase qu'il venge, c'est merveilleux. Et puis que la Charpillon, de son côté, trouve ça drôle.
C'est là où ils se reconnaissent l'un l'autre.
Mais oui.
Donc c'est une histoire finalement d'amour contre la société, d'une certaine façon.
C'est une histoire... On voit aussi très bien... le piège dans lequel il s'est mis lui-même. C'est-à-dire, il se présente comme un client, comme le client d'une prostituée. Et donc, il va tout le temps monter son prix, au contraire de ce qu'il fait avec le perroquet. Mais et en face de lui, il a une personne et elle veut absolument qu'il la reconnaisse comme une personne. Et finalement, c'est en le détruisant qu'elle va lui infliger cette leçon. Leçon dont elle va être elle-même victime. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est un épisode qui a été repris plusieurs fois. La femme et le pantin, ça vient de là. Cet obscur objet du désir aussi. C'est aussi le mystère du refus.
Donc le film de Buñuel et le livre de Pierre-Louis. Cet éloge ou ce discours sur le suicide, en tous les cas, qu'est-ce qu'il nous dit sur le fait de se donner la mort? On a l'impression qu'il trouve ça à la fois justifiable et en même temps condamnable.
C'est exactement ça. Il donne les deux avis et c'est exactement ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'il a été tenté, il ne l'a pas fait. Mais il y a une vraie tentation.
Il y a un avant et un après Charpillon dans la vie de Casanova. Est-ce qu'il devient un autre homme quand il dit qu'il a commencé à mourir? Donc il y a aussi en effet le thème du suicide là, mais il a commencé à mourir, à faire mourir sa jeunesse peut-être.
Oui.
Peut-être qu'il entre dans une phase où il va inventer autre chose, il va se mettre à écrire parce que l'amour pour lui a pris un caractère neuf et tragique.
Oh. D'abord, il sépare pas l'amour de la jouissance, et il sépare pas. C'est une chose que je trouve que j'aime chez Casanova, qui est complètement anti-romantique. Aimer et jouir vont ensemble.
Et on peut pas jouir sans aimer chez Casanova.
Non. Mais on peut pas non plus vraiment aimer sans jouir. C'est une ombre. Le coup de la Charpillon, c'est aussi plus généralement le coup de Londres. À Londres, tout va mal. D'abord, son rapport à la langue, c'est une catastrophe.
Il déteste l'anglais.
Voilà.
Il déteste Londres aussi, de manière générale.
Ça se dépasse très mal. Et puis, tout tourne mal. Comme il y a des phases comme ça, il y a des villes comme ça. Et puis, c'est aussi la première fois, elle le lui fait sentir, que apparaître ne suffit pas. Et qu'il apparaît plus du tout comme un homme jeune à qui tout est offert. En relisant mille fois cet épisode pour le scénario, ce dont je me suis souvenu aussi, et qui n'est pas du tout dû, c'est que quand Casanova, ce tout bébé, est à Venise, abandonné à sa grand-mère, et que la mère s'en va pour faire carrière dans le théâtre, malgré sa promesse qu'elle ne le ferait jamais, elle part où? À Londres. Et je me suis dit qu'au fond, les premières fois où il a entendu parler de Londres, où le mot de Londres a traversé l'espace où il se trouvait, c'était associé à l'absence de sa mère, à ce qu'il a toujours ressenti comme une manière de le laisser orphelin.
Et est-ce qu'il y a d'autres raisons plus objectives à son désamour de Londres?
Objectivement, il y a le fait que ça marche pas, ça marche, il est quelqu'un du Sud. Les codes de Londres lui sont étrangers. Comme par hasard, la seule personne avec qui il a une affinité, c'est une amie italienne. Et puis, je pense que partout où il va, ce qu'il sait faire bien, Casanova justement, et ça aussi, c'est lié à sa mère aussi, c'est retrouver un petit clan lié à la comédie italienne, ou bien des chanteuses, tout un monde du spectacle qui va et vient d'une ville à l'autre. Et à Londres, ça ne se produit pas.
Casanova, Casanova, où es-tu? Où es-tu? Casanova, Casanova, viens, viens. Casanova, Casanova, que fais-tu? Que fais-tu? Casanova, Casanova.
Alors Chantal Thomas, dans votre livre Un voyage libertin, vous parlez de casanovisme. C'est quoi le casanovisme? C'est un concept, c'est un état d'esprit, c'est une façon de voir le monde?
Oui, quand je disais casanovisme, je pensais surtout à un groupe de gens obsédés par Casanova et qui veulent à tout prix vérifier si il a effectivement dormi dans cet hôtel et combien ça a coûté, etc. Toute étrangement, Casanova suscite une véritable obsession de vérification.
Pourquoi, d'après vous?
Je sais, parce que Histoire de ma vie est un entrelac très subtil entre des choses effectivement vérifiables et puis c'est sa version, c'est son invention, c'est son auto-fiction de lui.
Il y a beaucoup d'identification des
sur
lecteurs.
Sur Casanova, ça je suis sûre, oui, ça c'est sûr. Mais ce qui m'a donné envie d'écrire Un voyage libertin, c'est j'ai découvert Casanova à New York, j'ai pris à la bibliothèque de Columbia University. Et ça m'a tout de suite complètement enchantée. Et j'avais écrit sur Sade, mais Sade, c'était dans un esprit fantasmatique. C'est pas du côté d'un art de vivre. Et Casanova m'est apparu comme un compagnon idéal pour traverser le monde. Il y a un art du bonheur chez Casanova. Et une sorte de grande intelligence d'une dynamique intérieure. Qu'est-ce qui fait que on peut sauter hors du malheur et très vite comprendre une situation et la réorganiser pour en faire la scène suivante de votre existence. Il y a une curiosité et une excitation à vivre dans Casanova qui m'a absolument enchantée, oui, je dois dire.
Il y a quelque chose de très concret, de très réel,
oui.
L'envie de jouir au jour le jour, que ça arrive, que ce soit possible, ce qui est en effet un petit peu différent de Sade, où ça se passe quand même plus dans la tête.
Dans Sade, il n'y a rien de ça. Sade, c'est une scène séparée du monde. Donc, mais chez Casanova, et aussi une vie vécue comme un voyage, consciemment. Et que chaque début dans une ville, soit, il le présente vraiment comme ça, comme la scène suivante dans le théâtre de sa vie. Et c'est extraordinairement léger aussi. Il y a une légèreté de Casanova qui est très belle.
Il y a une légèreté, il y a aussi ce que vous définissez comme étant de l'ordre de la normalité. Finalement, Casanova, c'est une vie très normale. Il n'y a pas, encore une fois, pour reprendre la comparaison avec Sade, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de sadisme, il n'y a pas de masochisme. La sexualité chez Casanova, elle est tout à fait normale, entre guillemets, évidemment.
Ah oui, oui. Oui.
Elle est simple, quoi. Ça vous fait rire.
Oui, ça me fait rire, parce que c'est vrai, je n'ai pas vraiment pensé j'ai pas beaucoup réfléchi à leur différence de sexualité, mais
vous dites qu'il n'est pas sadique, qu'il n'est pas pervers, Casanova, pas
non,
du tout.
Non, absolument pas.
Enfin, il n'est pas pervers, mais il aime quand même les petites filles.
Oui, mais alors là, il faut se replacer dans l'époque, à cette époque-là, ou maintenant dans certains pays du tiers-monde, où et malheureusement les enfants étaient prostitués très jeunes.
Donc il ne faut pas faire d'anachronisme sur la lecture de Casanova.
Sur aucune lecture, je crois. Il faut quand même... et c'est pour ça que l'histoire est précieuse dans tous ces jugements sur des personnages.
Et Don Juan, alors, est-ce qu'on peut le rapprocher de Casanova?
Mais pas du tout. Enfin, de toute manière, c'est autant Sade et Casanova, oui, c'est deux écrivains, mais Don Juan... Il n'y a aucun personnage qui a écrit, qui était Don Juan de l'intérieur. C'est un grand seigneur qui a inspiré...
Mais dans les pratiques, la collection des femmes...
C'est l'idée de la collection, c'est l'idée de la... D'abord, il y a une position sûre chez Don Juan, qui est une position aristocratique et supérieure. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas mis en question par les autres. Et ça, c'est absolument pas du tout dans Casanova. C'est quelque chose de... Il y a une fragilité dans Casanova. Et cette idée de la collection est complètement étrangère à Casanova.
Il ne fait pas le compte d'ailleurs de ses maîtresses, parce que dans chaque relation, il se passe quelque chose. Il ne s'agit pas d'accumuler les femmes. Il s'agit de les aimer à chaque
non.
fois.
Non, d'ailleurs, il y a les femmes, mais aussi il a eu des relations homosexuelles sur lesquelles il ne s'éteint pas. Mais le prince de Ligne, quand il lit ses mémoires, quand il lit son texte, lui dit, l'encourage, l'exhorte à être plus frais et plus franc là-dessus.
De toute façon, il n'est pas homosexuel, il n'est pas hétérosexuel, il est sexuel. Il aime
oui,
parce l'amour qu'il a, des
ce
corps.
Qui est ce qui est, à mon avis, la vraie attitude.
Il y a une autre adaptation, puisqu'on a beaucoup adapté hein, Casanova, c'est celle de Fellini, avec ce film de 1976 qui s'appelle justement Le Casanova de Fellini. En voici tout de suite un extrait.
Nous, les hommes, maltraitons fort les femmes. Elles subissent une véritable tyrannie. Mais si nous parvenons en général à leur faire accepter, c'est qu'elles sont plus bonnes, plus raisonnables, plus généreuses que les hommes. Et ces qualités qui eussent dû leur valoir la supériorité sur nous, les ont au contraire mises à notre merci. Car il faut l'avouer, les hommes sont mille fois plus déraisonnables, plus cruels, plus violents, plus enclins par nature à opprimer autrui.
Mais les baisers des dames sont comme ce verre de vin. On boit, on boit, on boit, et on finit par succomber.
Oui, mais qui ne médit jamais des femmes ne les aime pas. Parce que pour les comprendre et les aimer, il faut avoir souffert par leur faute. Alors seulement, on découvre le bonheur sur les lèvres d'une belle amoureuse.
Mais le baiser n'est autre chose que le désir de dévorer ce que l'on baisera.
Mais notre hôte semble doté d'un bel appétit.
Mais c'est quoi un baiser ? Pas autre chose que le désir de se perdre dans l'âme de la femme qu'on aime.
Casanova de Fellini, c'est avec Donald Sutherland et Michel Piccoli pour la voix française. Vous avez revu ce film avant d'écrire le scénario de Dernier Amour, Chantal Thomas ?
Non.
Non ? Vous l'aimez pas trop peut-être ce film ?
C'est un film, c'est Fellini, oui. Ça continue La Cité des Femmes, c'est un film sur l'angoisse de la femme géante qui va vous absorber.
Donc c'est pas du tout Casanova, parce qu'on sait bien que Casanova, c'est pas les femmes géantes qu'il aimait, c'était au contraire les petites femmes, les petits modèles, presque
même,
les petites poupées.
Même ça va aller même de plus en plus du côté miniature.
Ouais. Donc c'est un contresens de Fellini.
Mais ça m'intéresse pas cette question, voyez, parce que je pense que quand on fait un film, on garde un certain esprit de l'œuvre au départ et on la retrouve, on la recrée. Mais le film de Fellini, il est très singulier dans la mesure où Fellini lui-même a dit qu'il détestait le texte de Casanova, qui trouvait que c'était aussi ennuyeux que lire l'annuaire. Mmh. Et il a une haine par rapport à Sutherland, qui est quand même assez extraordinaire de la part d'un metteur en scène. Et je pense qu'il a vu en Casanova la caricature du mâle italien.
Alors, qu'est-ce qu'il lui reproche exactement à Casanova Fellini, d'être trop puéril dans son rapport avec les femmes ?
Précisément le mâle italien macho, stupide, enfantin, qui n'est pas encore né, une sorte de fœtus ridicule.
Mmh. Et vous, comment voyez-vous les choses de ce point de vue-là ? Vous n'êtes pas d'accord ? Qu'est-ce que vous répondriez à
Fellini ? J'aurais pas écrit un livre sur quelqu'un que je trouve débile.
Mais vous comprenez cette critique ?
C'est une critique qui vient d'un homme italien qui avait sa propre fantasmagorie autour des femmes. Mmh. Je la comprends intellectuellement, oui.
Allez, on va continuer cette conversation sur Casanova avec vous, Chantal Thomas. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver la chronique de Stéphanie Genon.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Stéphanie Genon, professeure de littérature française à l'université de Bourgogne à Dijon. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Mathieu.
Vous nous parlez aujourd'hui de Casanova et Sade, mais avec un œil féminin.
Oui, parce que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre de Chantal Thomas, justement, Un voyage
Lequel,
libertin.
Parce qu'on a
celui sur Casanova, parce que je suis pas du tout une spécialiste de Casanova, c'est un auteur que je connaissais pas. Et du coup, c'était très intéressant de le découvrir un peu après ça, justement, entre parenthésées.
On rappelle que vous avez publié chez Folio Biographie une biographie de Sade, justement.
Oui, et Chantal Thomas commence son voyage en disant que pour Casanova, il y a intérêt à porter sur ce corpus une lecture féminine. Alors ça m'a intéressé beaucoup parce que ça mettait en lumière le pouvoir neutralisant du féminin sur ces auteurs qui sont aussi bien Casanova que Sade des machines à fantasmes masculins et pour lesquels la critique féminine a une vertu non pas du tout féministe mais justement d'assourdissement du fantasme, comme si pour voir vraiment en liberté à la juste distance qui sont ces auteurs et quelles sont ces œuvres, il fallait justement ne pas être un homme.
Donc ne pas s'identifier, ne pas pouvoir s'identifier, même si on doit pouvoir tout de même s'identifier d'un sexe à l'autre.
Mais pouvoir s'identifier librement, c'est ce que Chantal Thomas appelle la résistance entre, enfin la possibilité de pouvoir résister à l'alternative du rejet ou de l'adhésion. On peut adhérer, mais en liberté, sans projection outre mesure, alors que cette juste distance, cette liberté autorise une projection autre, beaucoup plus libre, qui donne dans Un voyage libertin une écriture critique libre, très subjective, puisque du coup le texte de Chantal Thomas mêle des souvenirs personnels à une lecture de l'œuvre, comme d'ailleurs ça avait été le cas pour Sade aussi dans d'autres articles. Je me souviens dans la revue Oblique où vous évoquez votre lecture de l'histoire de Juliette dans l'internat à Bordeaux où vous êtes, mais du coup la liberté autorise une autre proximité avec des corpus qui sinon sont très effrayants. Donc, je trouve que du coup il y a une vertu très intéressante de la neutralisation féminine.
Chantal Thomas.
Mais justement, ce que dit Stéphanie, c'est quelque chose qui est exactement le contraire de ce dont on vient de parler par rapport à Fellini. C'est-à-dire que c'est le rejet de Casanova, ça peut être aussi une identification haine-amour. Alors que ce que je trouve charmant dans Casanova, d'abord c'est un texte qui nous donne beaucoup de chemins qu'on peut prendre et on peut s'identifier à des rencontres de Casanova, pas seulement à Casanova seul, mais à ce qui lui arrive avec quelqu'un d'autre. Et plus je le lis, plus je trouve que les personnages secondaires, certaines femmes rencontrées comme ça au détour d'un voyage, sont fascinantes. Et ils donnent vie à une sorte d'échelonnement immense de personnages.
Stéphanie Genant, quand vous avez travaillé sur Sade, est-ce que Casanova était associé à votre sujet? Est-ce qu'on vous parlait de Casanova ou est-ce que c'est totalement vécu comme deux personnages, certes libertins l'un et l'autre, mais de façon très séparée?
Non, il y a des points communs évidents. Chantal Thomas l'a rappelé, le caractère accumulatif des conquêtes qu'on a prêtées à Sade, et puis surtout la trajectoire, puisque ce sont deux auteurs quasi contemporains, et qui ont pour point commun, ça c'est très intéressant, d'avoir traversé le siècle et d'avoir aussi vécu l'épreuve de la chute du XVIIIe siècle, et donc de la disparition du monde d'avant. Ils ont vieilli. Ils sont nés au début, ils ont vu l'ancien régime disparaître. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que regarder Casanova après Sade, pour moi, fait ressortir par contraste tout ce que Sade est et finalement que j'avais pas vu clairement, c'est-à-dire un monde totalement mélancolique, un monde triste, sans jouissance. Et finalement, le fantasme sexuel que suscite l'œuvre de Sade n'est pas du tout fondé. Il n'y a pas de jouissance, il y a une jouissance cérébrale, mais c'est quelque chose de très clos, de très fermé. L'avantage, c'est que Sade étant mélancolique depuis le départ, ce qui apparemment n'est pas le cas de Casanova, qu'il devient lorsqu'il vieillit, lorsqu'il perd son charme, Sade vit mieux la fin de l'histoire, et à tous les sens du terme, la sienne et celle de l'Ancien Régime. Il s'adapte un peu plus à l'idée de la mort.
Est-ce que vous savez s'ils se sont lus mutuellement?
Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire.
Vous n'avez pas non
plus ils ont eu en commun, en tous les cas, une maîtresse en Italie.
Ah bon, voilà, ça crée des liens. Merci beaucoup Stéphanie Jeune, professeur donc à l'université de Bourgogne. À bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Vous êtes bien sûr France Culture au quatrième et dernier épisode de notre série consacrée à l'écrivain séducteur Giacomo Casanova, un homme qui a parcouru l'Europe et vécu entre autres à Paris, comme il le raconte dans Histoire de ma vie, dont voici un extrait.
Nous sortons du Palais Royal par la grande porte et je vois une foule de monde attroupée devant une boutique à l'enseigne de La Civette. Qu'est-ce que cela ? C'est pour le coup que vous allez rire. Toutes ces bonnes gens attendent leur tour de faire remplir leur tabatière. Est-ce qu'il n'y a point d'autres marchands de tabac ? On en vend partout, mais depuis 3 semaines, on ne veut que du tabac de La Civette. Est-il meilleur là qu'autre part ? Il est peut-être moins bon, mais depuis que la duchesse de Chartres l'a mis à la mode, on n'en veut point d'autre. Mais comment a-t-elle fait pour le mettre à la mode ? En y faisant arrêter son équipage 2 ou 3 fois pour y faire remplir sa boîte, et en disant publiquement à la jeune personne qui la lui remettait que son tabac était le meilleur de Paris. Les badauds, qui ne manquent jamais de s'attrouper à la portière d'un prince, l'eussent-ils vu 100 fois, ou le sussent-ils aussi laid qu'un singe, répétèrent dans la ville les paroles de la duchesse, et s'en fut assez pour faire courir tous les priseurs de la capitale. Cette femme fera fortune, car elle vend pour plus de 100 écus de tabac par jour. La duchesse ne se doute pas du bien qu'elle lui a fait ? Au contraire ! Car c'est de sa part une ruse de guerre. La duchesse s'intéressant à cette jeune femme nouvellement mariée et voulant lui faire du bien d'une manière délicate, s'est avisée de cet expédient qui lui a parfaitement réussi. Vous ne sauriez croire combien les Parisiens sont braves et bonnes gens. Vous êtes dans le seul pays du monde où l'esprit puisse également faire fortune, soit en débitant du vrai, soit en débitant du faux. Dans le premier cas, l'esprit et le mérite lui font accueil, et dans le second, la sottise est toujours là, prête à le récompenser. Car la sottise est caractéristique ici. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'elle est fille de l'esprit. Aussi, on ne fait point de paradoxe en disant que le français serait plus sage s'il avait moins d'esprit. Les dieux qu'on adore ici, quoi qu'on ne leur élève pas des autels, sont la nouveauté et la mode. Qu'un homme se mette à courir et tout le monde lui court après.
Un extrait lu par Jacques Serres. Qu'en retenez-vous, Chantal Thomas ?
Mais c'est très joli, je trouve. C'est... D'abord, c'est Casanova vient d'arriver à Paris. C'est son premier séjour.
Il en a fait quatre, hein.
Oui, il a 25 ans et il le dit, j'étais nouveau. Et c'est un Casanova qui interroge et qui s'enchante de tout ce qu'il découvre. Et en ce premier séjour, il va apprendre quelque chose de décisif sur la France, qui est le goût de la mode et comment on peut s'imposer comme un charlatan.
Mmh. Ça lui convient bien.
Eh ben oui. Et ça, il le pressent. Il n'a pas besoin de l'explorer. C'est à son second séjour qu'il va en faire usage. Mais ce premier séjour, comme il dit, il veut juste apprendre Paris, perfectionner son français et s'adonner à la littérature.
Mais pourtant, ce premier séjour ne se passe pas si facilement parce qu'il ne parle pas très bien français et que dans les salons, il faut savoir briller. Et autant il peut briller très bien en italien, autant pour ce premier voyage, il n'y arrive pas aussi bien. Il commet des impairs.
Mais alors, ce premier voyage, il le dit, je passais mon temps à me faire pardonner mes erreurs. Mais en même temps, il décide de prendre des cours de français. Donc il prend les choses très sérieusement, avec Crébillon père, non le fils. Et Crébillon lui dit, vous savez, au début vous allez faire rire et tout le monde vous trouvera drôle et on vous invitera, mais au bout d'un moment, ce sera un handicap. Et il le prend très au pied de la lettre, si je puis dire, et vraiment il cherche à très bien parler français. Et il parlera bien français, mais avec un accent italien toujours très appuyé.
Mmh. Donc dans ce livre, Mon apprentissage à Paris, que vous avez édité en 1998, mais qui est toujours disponible aux éditions Rivage Poche, vous évoquez les deux premiers voyages, enfin ce sont les deux premiers voyages qui sont racontés par Casanova, et il y en aura ensuite deux autres. Le dernier finira par une expulsion.
Oui, parce que au premier voyage, il veut juste apprendre et découvrir. Il est totalement dans l'innocence, il cherche rien d'une certaine façon que qu'un nouveau sentiment.
Comme toujours, Casanova ne cherche jamais rien.
Non, il cherche jamais rien. Progressivement, il va quand même chercher l'argent. Au second séjour, il a cette phrase par rapport au monde, c'est se faufiler, figurer ou en imposer. Au premier séjour, il se faufile et il trouve ça délicieux, ça suffit. Au second, il figure, il commence à être un personnage reconnu et il va vouloir en imposer. Et ça, ça va être sa rencontre avec Madame d'Urfé. Et une très riche aristocrate, folle d'alchimie. Et il va, comme il dit, emporter son cœur, sa tête, et finalement la manipuler et en tirer beaucoup d'argent. Ça veut dire la dernière fois où il passe, la famille de Madame d'Urfé a pris des précautions et a décidé de mettre fin à toutes les manœuvres de cet aventurier. Et il va être expulsé par lettre de cachet. Donc Paris se termine mal, mais ça se termine bien aussi, puisque des années plus tard, à partir de 89, il va écrire Histoire de ma vie, et Paris sera un des personnages majeurs.
Qu'est-ce que Casanova n'aurait pas été, selon vous, sans Paris ?
Oh, mais ça, vous savez, c'est très difficile à dire. Je pense que Casanova, il a intériorisé la ville de Paris. Ça a été d'abord la découverte du grand éclat de sa jeunesse, la découverte aussi de la liberté des femmes. Quand il arrive à Paris, il est stupéfait et ravi de découvrir des femmes libres.
Exactement. Et insolente, ça
exactement ce qui va révulser Rousseau. C'est les mêmes termes opposés. Ce qui va adorer chez les Parisiennes, c'est exactement ce qui va crisper Jean-Jacques Rousseau. Et surtout, c'est le français qu'il va choisir pour sa langue d'écrivain, d'écriture et de voyageur du monde.
Alors, sur les femmes parisiennes, il explique que c'est en les voyant qu'il a eu aussi la conviction que les femmes n'étaient pas faites par nature, je cite, à être vouées à la clôture du foyer. Donc oui. Les parisiennes lui apprennent ça aussi.
Oui, parce qu'il rencontre une jeune parisienne et il voit trois enfants délicieux et il lui dit « Ah, vous avez tous ces trois enfants ?» Il dit « Oui, oui, mais deux pères très différents. » Mais je pense que là, les parisiennes lui disent aussi quelque chose sur la possibilité pour les femmes de circuler dans le monde. Et il ne faut pas oublier qu'il vient d'Italie, d'un pays qui est encore entièrement pris dans la religion. Quand il ira en Espagne, il pourra voir des femmes que sur le trajet entre leur foyer et l'église. Et c'est comme ça, pareil en Italie et en France. Mais à Paris, c'est différent. Et parce qu'une des belles choses de la lecture de Casanova, c'est toutes ces comparses qui... il les perd de vue, il les retrouve à Vienne... elle disparaît, elle sera à Florence, etc. Vous voyez... Histoire de ma vie comprend une sorte de carte de voyage.
Mais c'est aussi parce que il n'est pas tellement jaloux, Casanova. Les femmes passent et il ne cherche pas forcément à les attraper. Il n'est pas dominateur, il n'est pas autoritaire. Et sa devise, on le rappelle, c'est « sequere Deum », suivre le Dieu. Il y a donc quelque chose comme une intelligence fluide. C'est quelqu'un qui marche à l'instinct et qui ne cherche pas à enfermer. C'est peut-être ça le secret de Casanova ?
Je ne sais pas, je pense qu'il avait plusieurs secrets et aussi des facettes de lui-même disparates. Mais il n'est pas jaloux en termes général, mais dans le temps où il est passionnément amoureux, oui, il l'est.
Thank you.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons des voyages à Paris de Giacomo Casanova avec vous, Chantal Thomas. Dans ce second séjour, dont il est donc question dans Mon apprentissage à Paris, il y a un épisode qui l'a beaucoup choqué et qui dit beaucoup sur qui était Giacomo Casanova. C'est l'épisode du supplice de Damien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit ?
Alors, à ce second voyage, Casanova est un homme complètement différent du premier. Il vient de s'évader des plombs et il s'est juré de plus jamais être prisonnier.
En quoi a-t-il changé ? C'est qu'il a mûri simplement ?
Oui, il s'est juré de plus jamais retomber dans cet enfer. Et non seulement il a mûri, mais il a compris que la transgression avait un prix. Et donc il va être pas plus prudent, mais il va s'exposer de manière beaucoup plus intelligente, disons.
Ce que Sade ne va pas faire, hein, pour filer la comparaison.
Sade, c'est le prisonnier sous tous les régimes, comme il l'a lui-même dit. Et quand il arrive à Paris, il est décidé à triompher. Et il va trouver deux moyens, qui est de fonder cette loterie, la loterie royale, qui va lui rapporter énormément d'argent. Et puis, ce dont on a parlé tout à l'heure, sa complicité avec la marquise d'Urfé, qui est une complicité assez à la fois libertine et du côté Cagliostro. Et par ces deux moyens, il va vraiment vivre ce second séjour comme un Paris où tout lui réussit. Mmh. Un Paris dans les deux sens du terme, d'ailleurs, où tout lui réussit.
Mais alors, quand il va, place de Grève, assister à la torture, à l'écartèlement de Damien, qui donc a tenté d'assassiner Louis XV, mais il n'a en réalité fait que l'effleurer, là, il va être assez choqué par la réaction des Parisiens.
Alors, cet épisode terrifiant, puisque le supplice de Damien est interminable, et il dit plusieurs choses. D'abord sur les Parisiens, en effet, puisque toutes les fenêtres, tout est archibondé comme pour un spectacle chéri et attendu. Et lui-même, Casanova, loue un appartement pour pouvoir assister avec ses amis à cette boucherie lente.
Il a vraiment besoin de voir pour comprendre, c'est-à-dire qu'avec une certaine inconscience, il va louer cet appartement et c'est en voyant qu'il se rend compte de l'horreur de la chose.
Non, c'est-à-dire ses amis lui demandent s'il ne peut pas louer une fenêtre. C'est pas très important pour lui, jusqu'à ce qu'il se retrouve là, en effet.
Voilà.
Exactement. Et il y aura des épisodes libertins face et pendant ce supplice. Et c'est en effet quelque chose qui va le révulser. Il n'y a pas de pulsion de cruauté chez Casanova.
Donc il y a, de la part de ses amis, une volonté d'associer la jouissance avec le spectacle de la torture de Damien ?
Non, je pense que c'est beaucoup plus, et là c'est pire, c'est beaucoup plus dans le principe d'indifférence mondaine. Mmh.
Ça lui fait dire quand même que les Parisiens sont des gens bien étranges, qui sont capables à la fois d'adorer leur roi et puis tout d'un coup de décider que ce roi doit être raccourci. Et ça l'effraie peut-être un petit peu. Enfin, quel regard porte-t-il sur ce peuple tout à fait extrême durant cette période de la Révolution ?
Mais ça, il écrit ça. Il écrit ça bien après le supplice de Damien.
Oui.
Donc il décrit le supplice de Damien avec à l'esprit ce qui est en train de se passer en France. C'est d'ailleurs le début de la terreur. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que la première version de l'histoire de ma vie, celle corrigée par la Forgue, gommait. Parce que cette version était beaucoup plus pro-révolutionnaire et pro-républicaine. Alors que le texte original de Casanova est très différent.
Il n'aime pas la Révolution fondamentalement.
Non, il n'a aucune raison de l'aimer. Ce qu'il aimait dans l'Ancien Régime, c'est que c'est un côté n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a cette phrase géniale, « Je n'étais rien, c'était trop ». Mais à partir de ce rien, ça lui plaît, ça l'amuse et c'est un enjeu d'exister.
Il va même jusqu'à regretter, alors qu'il en a été victime plusieurs fois, je cite, « l'heureux temps des lettres de cachet ». Il n'y a pas de demi-mesure, du coup, chez Casanova.
Moi, c'est un peu la manière dont il arrive à rire de l'épisode de La Charpillon. Il peut vous arriver des choses atroces, et puis la morale du ressentiment n'est pas du tout à l'œuvre chez Casanova. C'est le moins qu'on puisse dire.
Qu'est-ce qu'il pense du peuple? Parce qu'on a l'impression qu'il n'aime pas la révolution aussi, parce qu'il n'aime pas tellement ces masses pas éduquées, dangereuses, qui font peur, qui sont capables à la fois d'écarteler place de grève et puis de trancher la tête de leur souverain.
Il s'est jamais senti aucune connivence avec le peuple. Et du temps de sa jeunesse, c'est parce qu'il veut s'en sortir, tout simplement. Je veux dire, il veut lui aussi avoir les avantages et une position de privilégié. Mais ce qui lui plaît, c'est de l'acquérir. Et c'est des moments qui lui plaisent. Et le jeu relève de ça. Et la nouvelle société qui est en train de s'édifier, qui est beaucoup plus du côté de l'égalité ou d'une reconnaissance du mérite, ça ne l'intéresse pas. Ce qui lui plaît, c'est les hauts et les bas de la fortune. Et donc, c'est complètement différent.
Mais on sait bien que pour jouer à ce jeu, enfin, sans doute, on le savait moins à l'époque, il faut en avoir la possibilité, c'est-à-dire qu'il faut en avoir les ressources, dirait-on.
Pour jouer à quel jeu
aujourd'hui? Eh bien, pour jouer à tous les jeux qui font que quand on est un aristocrate ou quand on est proche de l'aristocratie, on peut jouir de la vie. Et c'est peut-être ça qui l'amuse finalement, qui l'intéresse dans l'espèce de flou qui entoure l'Ancien Régime.
Oui, mais justement, il les avait pas, ces ressources, au départ.
Un petit peu, quand même. C'est-à-dire qu'il est né, certes, dans la Bohème, mais assez vite proche.
Par son talent. Parce qu'il prouve très vite son habileté. Mais sinon, non, au départ, il a strictement rien. Il a un handicap, puisque sa mère, comédienne, c'est vraiment une chose qui ne se dit pas.
Oui. Donc, est-ce qu'on peut traduire, en termes de vision politique, cette attitude, ce serait finalement de dire que on doit pouvoir faire son chemin soi-même et que d'une certaine façon tout le monde est égal et tout le monde peut accéder à la vie telle qu'il souhaite l'avoir.
D'abord, lui-même trouve que cette idée d'égalité est absurde. Et je pense que il faut pas tirer de vision politique de Casanova.
Il y en a pas
plus que de Sade. Et je crois que quand on lit ces auteurs, il faut chacun y trouver quelque chose qui prolonge votre désir.
Il faut peut-être, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, citer le nom de quelqu'un qui vous est cher, c'est le prince de Ligne, vous l'avez juste évoqué tout à l'heure, Chantal Thomas. Il a eu une importance capitale, parce que finalement c'est lui qui lui a dit « écris sur ta vie ».
Oui, et le prince de Ligne, moi je l'adore. Oui. C'est un écrivain, d'abord c'est un écrivain merveilleux. C'est
oublié un petit peu quand même.
Oui, peu connu, je trouve. Et il écrit des mémoires qui sont hors chronologie, qui sont vraiment dans le surgissement spontané des images. Et il était quelqu'un qui, ça revient sur cette question d'égalité ou d'inégalité, il lit avec Casanova une amitié qui est d'une certaine façon hors caste. Et Casanova, indirectement, par Waldstein, lui doit d'avoir une vieillesse, bon, qui le rend furieux parce qu'il déteste la vieillesse, mais quand même qui lui permet, en tant que bibliothécaire à Dux, d'écrire son œuvre.
Ce qui compte, c'est quand même l'individu, pour l'un comme pour l'autre.
Complètement. Et ils sont à deux pôles opposés. Casanova aura tout découvert par lui-même et Ligne a tout reçu, mais ça n'empêche qu'il avait ce frémissement d'aventurier.
Merci beaucoup, Chantal Thomas. « Beaucoup de vos ouvrages ont pour sujet Casanova. Citons Casanova, Un voyage libertin chez Folio, mais également le livre Un air de liberté, variations sur l'esprit du XVIIIe siècle, c'est chez Payot. Et puis votre préface au livre de Casanova, Mon apprentissage à Paris, chez Rivage Poche. Votre dernier livre s'appelle East Village Blues et il vient paraître aux éditions du Seuil. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Morgane Danon. Demain, vous retrouverez La Compagnie des poètes avec Manu Farine. Et nous, on se retrouve lundi pour une semaine consacrée au bac de français. Nous la débuterons par une analyse de Madame Bovary. Tout de suite, la poésie, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Nous sommes toute cette semaine avec Jérôme Leroy à la table ronde. Et ça pleure. Et sa vie. Il nous remet un coup d'une France qu'on aime bien, qu'on aimait bien. Oui, qu'on aime bien. C'est dans les détails. C'est une question d'oreille. Écoute, ça sent bon. Quitter Dinard, page 37. Je voudrais être cet écolier de Dinard qui va à la cantine en traversant la rue sous la protection tutélaire de la jeune fille en gilet fluo marqué « école ». Je voudrais la voir comme il la voit, icône en casquette et queue de cheval, alpha et oméga, de la fille qu'il cherchera désormais, pour toujours. Je voudrais être cet écolier de Dinard, amoureux définitif de l'iode, du mimosa, du bleu de février, dans l'odeur d'une jeune fille, sur un passage clouté. Ah! Une jeune fille sur un passage clouté, une icône en casquette et queue de cheval, hier des jeunes filles à bicyclette sur les graviers, il est temps de laisser parler une autre musique, Edith Azam, par exemple, dans « Suis-moi » qui est paru dans la revue Sarrazine, le thème est « Suis-moi ». « Suis-moi, suis-moi que je m'efface, prends ton canif, ta langue, découpe tous les liens ». Découpe aussi mon ombre, mon sac à peau, mes osselets, mes tendons et mes lignes. Suis-moi pour me faire taire. Ouvre le vide que je suis. Ouvre ma voix. Déchire mes infinitifs, que mon corps devienne autre chose. Suis-moi que je m'écarquille. Je te dirai tout bas que parfois des mains poussent à l'intérieur du cœur et qu'elles recousent les cicatrices. Je te dirai à fleur de peau que c'est normal tout ça, qu'il faut me couvrir de silence, mettre un mouchoir de sable dessus, qu'un jour on n'en parlera plus, que tu peux avancer sans crainte, que bien mieux que me suivre, tu me dépasseras. Suis-moi, passe devant, que je reprenne mon innocence, mes mots informes, au noir squelette, mes morts terreux, mes morts que j'aime. Allez, allez, passe devant, offre un vertige à la lumière. Ouvre mes yeux que je la vois, suis-moi que je sois seul. Tiens, n'a pas eu de comice agricole aujourd'hui, pas d'extrait. Non, on va faire mieux, on va citer Gaston Roupnel, histoire de la campagne française. Gaston Roupnel est un contemporain de Bachelard. Les champs, les prés, les vieux chemins, les vergers et les buissons, les carrefours, les lisières, les forêts, la verte étendue de pâture, tout cela est d'un usage si ancien, d'une habitude si bien prise avec l'homme, que nos contemplations y appliquent plus de rêverie inactive que de curiosité interrogative. Et nous y sentons plus de poésie que de problèmes. Ce sont les vieilles choses qui ont vécu avec l'homme. Nous nous croyons en règle avec elles, en leur abandonnant les méditations de l'âme, et nous y aimons la douceur rêveuse d'une durée sans mémoire et des âges sans nom. Ah mais il faut lire Roupnel.
Jacques Bonafé, vous nous lisiez cette semaine notamment des extraits du recueil « Nager vers la Norvège » de Jérôme Leroy.